Bien, je vous propose que nous commencions notre soirée. Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, pour cette 76e soirée d'éthique publique, la 6e de cette année universitaire, en partenariat avec la revue Études. Alors, il ne fait pas très très chaud, mais la chaleur de la soirée va sûrement être au rendez-vous. Le mois dernier, nous nous sommes interrogés sur l'état de la justice en France, constat et enjeu, avec Maître Yvins, ancien bâtonnier de Paris, et Monsieur Salas, magistrat. Le mois prochain, nous voudrions revenir à un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois et qui touche à l'identité de notre pays, à l'identité citoyenne. C'est la question de l'histoire de France. Quelle histoire fait la France, pourrait-on dire? Quelle histoire faut-il apprendre? Y a-t-il un récit national transmissible? Des questions donc importantes, fondamentales, dans l'actualité aussi, mais qui sont au-delà de l'actualité, vraiment fondamentales pour notre pays. Ce sera donc le thème de notre prochaine soirée d'éthique publique, qui, en raison des vacances, n'aura pas lieu comme habituellement le premier mardi du mois, mais cette fois-ci le mardi 18 avril, le mardi de Pâques, donc à 19h15, retenez bien cette date dans votre agenda. Alors ce soir, nous allons prendre un peu de distance avec l'actualité politique de notre pays, qui peut peut-être susciter des sentiments variés en nous. En tout cas, on va se changer d'esprit, si je peux dire, en s'occupant de nous, de notre santé, pour un sujet qui n'en est pas moins un sujet très important et qui est bien une question de société. Je veux parler du lien entre nourriture et santé, l'alimentation comme défi de santé publique. Et le thème de notre soirée est donc se nourrir mieux pour une meilleure santé vers une alimentation durable et préventive. Cette soirée est en partenariat avec le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres et c'est pour cela qu'elle va être animée par son directeur, le père Bruno Saintot, que je remercie, ainsi que nos deux intervenants que Bruno va présenter, M. Christian Remézy et Joël Ménard. Voilà, sans plus attendre, donc je laisse la parole à Bruno. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.
Merci beaucoup, bonsoir et bienvenue. Pourquoi se soucier de la qualité de l'alimentation, des modes de nutrition, des répercussions de l'alimentation sur la santé des personnes, sur la qualité de notre environnement proche et plus globalement, sur le caractère habitable de la planète ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de questions, d'inquiétudes, d'informations contradictoires, de débats, tant au niveau scientifique que politique. Certes, la France est toujours réputée pour sa gastronomie, mais il n'est pas certain que ce vieux proverbe appris autrefois chez nos chers amis allemands, « Leben wie Gott in Frankreich », « Vivre comme Dieu en France », soit toujours valable pour la qualité globale de la nourriture. Certes, le salon de l'agriculture vient de se terminer à Paris. Il continue d'entretenir, du moins chez quelques-uns, le mythe parfois vacillant d'une France proche de la nature, où les produits du terroir sont toujours les symboles goûteux d'une harmonie à la fois simple et précieuse entre l'homme, l'animal et la nature. Mais au moment même où se déroulait ce salon de l'agriculture, les débats resurgissaient de manière vive pour tenter de s'accorder au niveau européen, d'abord sur la définition, mais aussi sur l'identification et les effets des perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle qui peuvent interférer sur le fonctionnement des glandes endocrines responsables de la sécrétion des hormones. Certains de ces perturbateurs sont issus de l'industrie chimique et se retrouvent notamment dans les produits de traitement des cultures et parfois par contamination dans l'eau, les aliments et leurs contenants. Qu'en est-il exactement ? La qualité des aliments et l'adéquation des modes de nutrition sont devenus des enjeux majeurs pour les citoyens et pour la santé publique. Peut-être en va-t-il de l'évolution du rapport à l'alimentation de façon analogique à celle de la médecine, qui est passée d'une lutte contre les maladies à une action contre le défaut d'hygiène, puis à une promotion de la santé publique et à la recherche collective d'une utopie de santé conçue comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Ainsi, le rapport à l'alimentation pourrait passer d'une lutte contre la sous-alimentation à une action contre la malnutrition, puis à une promotion de la santé publique comprise comme la mise en œuvre d'une transition alimentaire nécessaire à la santé humaine, intégrée dans la santé plus large, la santé écologique. Dès lors, bien se nourrir pour rester en bonne santé, mais aussi pour préserver la planète, est-ce une vaine utopie ou un vrai projet de société ? La santé humaine est-elle bien intégrable à la santé de la planète ? L'ambition de cette soirée est d'abord de répondre positivement à ces questions très larges dans la manière d'aborder la préoccupation de l'alimentation. Bien se nourrir peut et doit constituer un vrai projet de société. Dès lors, il devient nécessaire de penser et de réaliser une transition alimentaire afin de corriger les défauts de la chaîne alimentaire actuelle et ses conséquences négatives sur la santé humaine et l'environnement. Cette nécessité est déjà adossée à des recherches juridiques et politiques internationales pour penser, comme on le dit maintenant, une démocratie alimentaire, comme le fait notamment le programme LASCO pour atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire. Et ce programme juridique, penser une démocratie alimentaire, se définit par différents critères, comme celui d'établir une exception alimentaire à la manière de l'exception culturelle, définir aussi un nouveau contrat social pour aider la Terre à nourrir l'humanité, coordonner les enjeux écologiques, alimentaires et démographiques de l'exploitation des ressources naturelles et passer d'un droit de consommateur-mangeur à un droit de consommateur-citoyen, c'est-à-dire nous. Alors merci à vous, Christian Remezi, d'être venu de loin en plus, merci, pour nous aider à comprendre cette nécessité d'une compréhension globale de l'alimentation, cette nécessité d'une transition alimentaire. Alors vous êtes nutritionniste, ancien directeur de recherche de l'INRA, vous avez dirigé notamment une unité de recherche en nutrition humaine à Clermont-Ferrand, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, notamment « Que mangerons-nous demain ?» en 2005, et « L'alimentation durable pour la santé de l'homme et de la planète » Odile Jacob, 2010. Vous interviendrez donc en premier pendant 25-30 minutes pour présenter ces enjeux, en sachant, je sais bien, que vous auriez aimé disposer de plus de temps. Je vous ai donné une contrainte pédagogique. Voilà. Mais vous pourrez préciser certains points dans le débat qui suivra. Cette vue globale conduira aussi à rejoindre des préoccupations plus immédiates des concitoyens que nous sommes, sur la qualité de l'alimentation et sur l'information disponible. C'est un enjeu de démocratie et de santé publique. Actuellement, les informations nutritionnelles sont jugées globalement insuffisantes, parfois même incohérentes. Comment bien être informé sur le rapport bénéfice-risque de ce qui est produit, notamment dans les industries agroalimentaires ? Comment adapter nos modes alimentaires pour bien se porter et prévenir de nombreuses pathologies. Alors merci à vous, professeur Joël Ménard, de nous aider à répondre à quelques-unes de ces questions en nous faisant bénéficier de votre expérience professionnelle et, j'allais dire, de votre réflexion toujours vive, stimulante, sur la santé publique. Vous êtes en effet professeur émérite de santé publique, ancien directeur général de la santé. Vous venez de préfacer la nouvelle édition du très beau, un ouvrage très beau, très imposant aussi, le traité de santé publique aux éditions Lavoisier, où vous commentez notamment la nécessité de l'information en soulignant, je vous cite, « le besoin d'acquérir des langages et des connaissances qui permettent d'avoir une vision globale des problèmes. Il s'agit d'éviter les ruptures susceptibles de se produire entre des professionnels ou des institutions, faute de connaissances techniques et même plus simplement de connaissances générales suffisantes et d'un langage commun. L'approche globale des problèmes caractérise la santé publique, responsable de la protection de tous groupes humains dans le monde entier. Elle ne peut s'exercer quant aux compétitions politiques, scientifiques et sociales, s'ajoute l'incapacité d'entendre et de comprendre des points de vue différents. Eh bien, merci de nous faire en quelque sorte ce soir aussi une petite œuvre de pédagogie de la santé publique dans la deuxième intervention. Voilà, merci à vous deux. Donc, je vous donne la parole. Et on passe en mode visionnement sur cet écran.
Je vous remercie de cette excellente présentation. Donc, longtemps, la préoccupation de tout un chacun, c'était que dois-je manger pour bien me porter, tout en me faisant un peu plaisir. Et à cette question un peu triviale, les réponses ont souvent été très évasives, soit incohérentes de la part des nutritionnistes, avec des discours qui ont beaucoup évolué, si bien qu'à la fin, le citoyen ne s'y retrouve pas. Même si les recommandations étaient claires, il n'empêche que centrer la gestion de l'alimentation simplement sur « que dois-je manger pour bien me porter » ne permet pas réellement d'être efficace. Parce que, finalement, si on ne gère pas correctement l'ensemble de la chaîne alimentaire, on n'a aucune chance de faire aboutir dans l'assiette les aliments de qualité suffisante pour avoir un effet santé escompté. Donc, il faut changer de vision et finalement oublier soi-même sa préoccupation pour, c'est-à-dire développer une approche plus globale. Et nous verrons qu'en développant cette approche globale, on s'y retrouve. C'est la seule façon de s'y retrouver. Et ça serait la seule façon, in fine, de bien gérer la santé par l'alimentation. Donc, se fixer un objectif global, c'est absolument indispensable. Donc, quel est le mode alimentaire efficace pour gérer la santé humaine? C'est indispensable. On a tous envie de bien se nourrir, pour bien se porter. Mais également, il y a une nécessité de partager. Imaginez, par exemple, qu'il faille consommer beaucoup de viande pour bien se porter. Ce n'est pas vrai. Mais ça serait incompatible avec la gestion de la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, parce que si tous les hommes voulaient manger beaucoup de protéines animales, il n'y aurait pas assez d'une planète pour nourrir l'humanité. Et également, il y a une façon de produire, gérer l'agriculture qui est compatible avec la préservation de l'environnement et une autre qui ne l'est pas. Alors, non seulement il faut satisfaire tous ces objectifs globaux, mais également, figurez-vous qu'il faut le faire avec une éthique d'attention portée à l'homme, c'est-à-dire respecter, on ne doit pas donner n'importe quoi aux humains, et on doit aussi porter attention au vivant, à la biodiversité, au bien-être animal, et ainsi de suite. Donc, c'est dans la mesure où on se place dans une vision globale qu'on va finalement gérer la chaîne alimentaire. Alors, les limites, on a actuellement un système alimentaire qui n'est vraiment pas durable. Pourquoi? Parce qu'en particulier au niveau occidental, on a une offre alimentaire qui est peu adaptée aux besoins nutritionnels de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup trop de produits animaux et elle contient aussi beaucoup trop de produits transformés de très mauvaise qualité nutritionnelle. Vous avez pu l'observer en entrant dans un supermarché. En même temps, des choses qui nous sont indispensables, comme les fruits et légumes, où des produits bien transformés ou des matières grasses équilibrées ne sont pas toujours à la disposition du public. Donc l'offre alimentaire, curieusement, n'est pas satisfaisante. En même temps, on assiste à la disparition des agriculteurs, dont la chaîne alimentaire est responsable de près du quart des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture pollue, il y a une diminution de la biodiversité, des conditions d'élevage inacceptables. Effectivement, il est important de changer de système. Donc le programme est très ambitieux. Effectivement, il y a eu des impacts considérables de la première transition alimentaire sur la santé. Ça se traduit durant les années glorieuses du développement, par un abandon des modes alimentaires traditionnels pour aller vers une alimentation de type occidental, riche en calories animales et en calories vides. Et vous savez ce que ça a donné à l'échelon mondial. Ça a donné une épidémie d'obésité, puisqu'il y a plus d'un milliard d'hommes qui sont en surcharge pondérale et quelques centaines de millions carrément en état d'obésité. Donc, cette industrialisation de l'alimentation, cette première transition alimentaire a eu des effets très négatifs. Il faut donc en sortir et engager une nouvelle transition alimentaire et se mettre enfin à concevoir une chaîne de transformation et de distribution alimentaire qui soit adaptée aux besoins nutritionnels humains. Tout ceci, ce n'est pas que des mots, ça devrait se traduire par des pratiques totalement différentes. Également, il faut développer l'agroécologie, préserver l'environnement, maintenir des emplois paysans. On y reviendra à propos d'une exception culturelle. Et évidemment, on a été sensibilisé par des images sur les abattoirs, mais c'est sûr que les conditions d'élevage qui sont inacceptables, donc ne respectent pas la vie animale, et également un certain type d'agriculture productiviste, porte atteinte à la biodiversité naturelle. Et bon, malgré tout cela, compte tenu de tout cela, il faudrait, de la part des pouvoirs publics, une vulgarisation claire sur les modes alimentaires à adopter qui soient bons pour l'homme et bons pour la planète. Et vous savez à quel point les pouvoirs politiques restent silencieux en la matière. Alors, le premier point pour changer, pour développer notre vision, notre politique alimentaire, c'est de donner un éclairage nouveau sur les relations entre alimentation et santé. Alors, quel est cet éclairage? Donc, il faudrait adopter une nutrition préventive, faire comprendre ce concept, le vulgariser au maximum. Ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il y a une alimentation qui est optimale pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et donc, ce n'est pas la peine de mettre n'importe quoi dans son assiette, de même qu'on ne met pas n'importe quel carburant dans un véhicule. De même, il faut, pour les humains, adapter le contenu de notre assiette à nos besoins nutritionnels. Et si on le fait bien, tout au long de notre vie, on a ce qu'on appelle un équilibre alimentaire, il y a des bénéfices pour la prévention de toutes les pathologies. Et là aussi, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas une façon de bien se nourrir pour se protéger du cerveau, une autre pour se protéger des maladies cardiovasculaires, une autre pour se protéger des maladies osseuses. Non, c'est la même et unique façon qui convient pour la prévention de toutes les pathologies. Donc il peut y avoir ensuite des petites différences au niveau de la prévention secondaire, mais au niveau global, c'est la même prévention. Donc c'est très quand même, motivant. Également, il faut comprendre que bien s'alimenter, c'est indispensable pour la préservation du phénotype humain. Et on a vu à quel point l'humanité, lorsqu'elle a été, j'allais dire, confrontée à une alimentation industrialisée, a tout à fait changé de profil avec cette pandémie d'obésité. Alors, est-ce que c'est difficile de comprendre comment il faut pratiquer cette nutrition préventive? Non. Je vais vous donner 5 grands principes. Donc, modérer les apports caloriques. C'est-à-dire que nous, les humains, on n'est pas fait, on est davantage prédisposé à épargner les calories en cas de besoin, en cas de restriction alimentaire, plutôt que de gaspiller, de brûler des excès caloriques. Donc, un des principes de base, c'est modérer les apports caloriques. Le deuxième principe, c'est avoir une nourriture très diversifiée en produits végétaux. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs et nous sommes devenus loin, nous avons restreint notre cueillette à très peu de choses. Donc il faut effectivement avoir une nourriture très diversifiée en produits végétaux. Ensuite, j'y reviendrai, limiter la part des calories d'origine animale. On ne le sait pas, mais nous sommes tous largement végétariens plutôt que carnivores. Équilibrer des apports en acides gras essentiels, ça c'est absolument fondamental. Et ensuite, réduire la consommation de produits ultra transformés. Attention à ce que vous mettez dans votre caddie. Donc, avec ces 5 points, déjà, on gère relativement correctement la nutrition préventive. Et vous allez me dire, mais pourquoi on ne le fait pas plus rapidement ? Tout simplement parce que la vulgarisation est très insuffisante. Il n'existe pas en France de corps de nutritionniste, il y a un corps d'agronome, un corps de pharmacien, de médecin, de tout ce que vous voulez, mais pas réellement de nutritionniste. Il y a des médecins qui s'occupent spécialement de nutrition clinique, mais on n'a pas réellement créé une discipline, un corps chargé de décliner tous les aspects de la nutrition. Vous savez que le suivi nutritionnel des personnes est presque inexistant. J'imagine que certains d'entre vous n'avaient jamais eu une consultation nutritionnelle approfondie. Donc on peut passer toute une vie sans qu'on soit réellement guidé sur le plan nutritionnel. On doit mettre, tous les 2 ans nos véhicules au contrôle technique. Non, pour l'alimentation, on peut passer toute une vie sans avoir réellement un examen de passage. La population est exposée à des aliments dégradés, avec, donc, je vous l'ai dit, une trop forte proportion de calories d'origine animale et une insuffisante, je me répète, une accessibilité insuffisante en fruits et légumes et en matière grasse de qualité. Alors, nous avons certes un programme national de nutrition santé, et heureusement qu'il existe, parce que c'était vraiment, il n'y avait rien vers les années 2001, donc il est important qu'il y ait quelque chose. Ce programme-là a permis quand même de mettre en avant, par exemple, les 5 fruits et légumes par jour, recommandation qui a été souvent critiquée, mais qui reste quand même une bonne recommandation. Donc, il y a des choses tout à fait, pertinentes dans ces repères, des choses vraiment beaucoup trop, très critiquables, comme les 3 produits laitiers par jour. Il n'y a aucune raison que toute la population, quelle que soit son origine, consomme un produit laitier à chaque repas. C'est une recommandation qui est directement issue des lobbies. Il y a également une grande imprécision sur la proportion des calories d'origine animale qui doivent être consommées, et puis des choses assez banales sur la réduction, la maîtrise de la consommation de sel, d'alcool. Pour le sel, c'est pas banal, mais enfin bon, on va dire que les recommandations ne sont pas suffisamment centrées sur la question des produits ultra transformés, mal transformés, ils ne sont pas suffisamment dénoncés. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que si l'alimentation est si mal gérée, c'est un petit peu le résultat d'un nutriolisme ambiant très réducteur. Qu'est-ce qu'un nutriolisme ? C'est-à-dire que c'est, une vulgarisation sur les nutriments plutôt que sur les modes alimentaires, plutôt que sur la qualité d'un aliment. Donc, le lait est intéressant parce qu'il apporte du calcium, ainsi de suite. Donc, c'est réduire et ces arguments pseudo-nutritionnels ont servi de marketing à l'industrie agroalimentaire, pardon, qui a du coup a conditionné les actes d'achat avec des arguments très, très simplistes. Et au final, ça aboutit à ça n'aboutit pas à des comportements alimentaires équilibrés. Il y a une perte d'autonomie des individus et nous n'avons pas, à travers ces recommandations, de vision globale des modes alimentaires à adopter. Justement, un des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens, c'est les dérives de la chaîne de transformation alimentaire industrielle. Il n'y a pas eu d'encadrement du secteur agroalimentaire. On peut mettre sur le marché le plus nul des aliments et des boissons sans contrainte, pourvu que ça corresponde, l'étiquetage soit correct, soit conditionné aux règles administratives, pas d'obligation de qualité nutritionnelle, aucune. C'est incroyable. On a réussi à résoudre la sécurité microbiologique ou toxicologique, mais pas du tout, on n'a pas du tout assuré la sécurité nutritionnelle. Et donc l'industrie ne s'est pas du tout gênée, elle a fractionné des aliments, elle a fait du cracking alimentaire, elle a abusé du sucre, du gras, elle a fait des aliments riches en calories vides, je vous expliquerai ce que c'est, elle a manipulé le goût, elle a rajouté des molécules artificielles, des arômes artificiels, des antioxydants artificiels, ainsi de suite. Donc les aliments ont été dénaturés. Et bien entendu, ça a des conséquences ensuite sur la gestion de la santé. Et ces activités délirantes du secteur agroalimentaire se retrouvent, bien sûr, au niveau du supermarché. Et si bien que le citoyen qui n'est pas parfaitement éclairé va être influencé par cet environnement, cette prolifération de produits alimentaires dont beaucoup sont trop mal transformés. Et si bien qu'il y a un impact négatif, en quelque sorte, de cet environnement sur la possibilité de constituer un caddie équilibré et avec une influence déterminante, du niveau culturel sur la qualité du caddie confectionné. Donc, on s'est trompé, on a fait une vulgarisation largement basée sur des nutriments, on n'a pas contrôlé, les activités du secteur agroalimentaire, puis maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. Et on n'a pas suffisamment mis en valeur des modes d'alimentation durable. Alors, est-ce que les connaît, ces modes d'alimentation durable? La réponse est oui. On sait que, par exemple, ce qu'on appelle le régime méditerranéen, riche en produits céréaliers, en légumes secs, en fruits, en légumes, en poissons, en huile d'olive, était parfait pour la santé. On le sait. Entre-temps, bien sûr, le paysage alimentaire s'est profondément modifié dans le pourtour méditerranéen. On sait également que des régimes de type asiatique, riches en riz, en soja, en fruits et légumes, sont excellents pour à la fois la santé humaine et puis, pour la sécurité alimentaire. De même, on peut généraliser toutes les nourritures composées d'une très grande diversité de produits végétaux naturels ayant subi de bonnes transformations, avec un complément modéré de produits animaux, sont des modèles d'alimentation durable. Donc, on ne le vulgarise pas suffisamment, on entre dans le végétarisme par des images d'abattoirs, mais pas réellement par, par un discours cohérent sur l'alimentation. Alors, tout ceci repose, je vois que le temps passe très vite, hein, tout ceci repose bien sûr sur des bases théoriques absolument fondamentales et très sûres, à savoir que nous avons besoin d'énergie, de glucides, de protéines, de lipides, que actuellement, les apports en glucides ne sont pas optimaux parce qu'il y a beaucoup trop de sucre, que les apports en protéines ne sont pas optimaux parce qu'il y a beaucoup trop de calories de protéines d'origine animale, que les apports en lipides ne sont pas parfaitement équilibrés en oméga-6 et en oméga-3. Tout ceci, toute cette expertise, on la connaît parfaitement, mais ce que nous ne on met pas suffisamment l'accent en plus sur le fait que cette énergie doit être accompagnée par une fraction non énergétique très complexe, et si bien qu'il y a trop de calories vides parce que justement les aliments ont été appauvris en fibres alimentaires, appauvris en micronutriments, et on a besoin de cette complexité pour que l'alimentation soit efficace. Donc, si on a une nourriture, de type industriel, trop riche en calories vides, on sait ce que ça donne. On va mal couvrir nos apports nutritionnels conseillés. Ça va rendre difficile le contrôle de la prise alimentaire. Les glucides rapides et les matières grasses vont avoir un rôle, extraordinaire dans la genèse de l'obésité. On a un développement du stress oxydant, une augmentation des maladies inflammatoires, des pathologies cardiovasculaires, des cancers. Donc, cette nourriture industrielle riche en calories vides n'est pas recevable. Il faudrait en changer. Et donc, c'est simple. Il faut comprendre que les produits végétaux sont à la base d'une alimentation préventive et durable. Cultiver les fruits, les légumes, les céréales, les légumes secs, enfin cultiver les végétaux ou les cueillir éventuellement, c'est la meilleure façon pour assurer la sécurité alimentaire. Et ils ont un rôle indispensable dans la fourniture des glucides. Vous savez qu'on a besoin de beaucoup de glucides, ce n'est pas les produits animaux qui peuvent nous fournir les glucides. Ils sont également, les produits végétaux, très efficaces pour la couverture des besoins en protéines et en acides gras. Ils ont un rôle clé pour l'entretien du microbiote, pour leur richesse en micronutriments. Ils ont un rôle clé dans l'équilibre acido-basique. Je ne vais pas pouvoir vous détailler tout cela, parce qu'autrement, je dépasserai mon temps. Donc, sur les glucides, grosso modo, on s'est trompé. La société a dévalorisé les féculents, alors qu'il fallait les maintenir dans l'alimentation. On a donné des mauvaises alternatives aux glucides complexes, avec trop de sucre simple, trop de produits céréaliers raffinés. En matière de protéines, alors c'est extraordinaire, le public, large public, a retenu que les protéines, c'était vraiment, satisfaire les besoins en protéines, c'était essentiel, la chose la plus indispensable. Donc, les produits animaux ont été perçus comme étant vraiment les aliments avec un grand A, les meilleurs pour satisfaire ses besoins en protéines. Et on n'a pas perçu que finalement le mode végétal était tout à fait suffisant pour couvrir, à condition que les aliments ne soient pas dénaturés, pour couvrir les besoins en protéines humaines. Et en plus de ça, en augmentant la consommation de protéines végétales, on accroît aussi les apports de fibres, de micronutriments et tout ça, avec des impacts favorables sur la santé humaine. Bon, les matières grasses, c'est la même chose. L'offre conventionnelle en matière grasse est de très mauvaise qualité, des huiles en huile raffinée. Je ne sais pas, j'imagine que dans la salle, il y a tellement de personnes qui consomment des huiles raffinées. Ce n'est pas normal. à l'instar de l'huile d'olive, il faudrait généraliser l'utilisation des autres huiles sous forme d'huile vierge. Je ne sais pas ce qu'on a été inventé, quelle est l'utilité de ce raffinage. Il n'y en a aucun. Ça n'est que des effets négatifs. Donc on gère très mal la question des approvisionnements des matières grasses. Bon, c'est pareil, on va nous vanter, les bénéfices du microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble de la flore contenue dans notre gros intestin en particulier. Mais bon, ce microbiote, il vit avec des produits végétaux. Il ne vit pas avec des prébiotiques ou des probiotiques industriels. Pardon. Donc, il faut évidemment consommer suffisamment de produits végétaux naturels si on veut que notre microbiote soit en parfaite santé et nous aide à bien nous porter. Donc les conséquences de la baisse des apports de fibres alimentaires pour la santé humaine sont considérables. Je suis obligé de passer rapidement. Les micronutriments, c'est l'ensemble des composés, vitamines, oligoéléments, minéraux, micro-constituants. Là-dedans, on y trouve les antioxydants tels que les polyphénols, les caroténoïdes. Et le monde végétal est d'une richesse extraordinaire en micronutriments. Et on comprend très bien que si on puise dans la biodiversité végétale, on va avoir, un système de protection pour l'organisme qui est absolument considérable. Seulement, on a développé l'agriculture productiviste qui a appauvri les aliments. On a dénaturé, on a fait des mauvaises transformations alimentaires. Et ce qui fait que globalement, il y a un apport de micronutriments insuffisant. Et les compléments alimentaires dans cette affaire-là sont peu efficaces. Sont peu efficaces parce que les micronutriments doivent être, présents dans une matrice complexe. L'aliment, c'est l'éloge de la complexité. Et l'alimentation, ça met une couche supplémentaire parce qu'on associe des aliments très différents au sein d'un régime. Alors, pour ne rien oublier, il faut aussi dire juste un mot de l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que les aliments nous servent aussi, nous servent à la protection antioxydante, nous servent à lutter contre le cancer, mais également ils nous servent à équilibrer notre équilibre acido-basique. En effet, bon, vous avez certains aliments qui sont acidifiants, le sel lui-même, les produits salés sont acidifiants, et nous avons des aliments alcalinisants, les fruits, les légumes, y compris la pomme de terre. Donc le principe, c'est effectivement d'associer les aliments acidifiants et alcalinisants pour assurer une homéostasie. Et c'est pas en consommant, tel veau des produits laitiers qu'on va arranger la chose. Non, c'est très important, justement, de maintenir cet équilibre acido-basique. Bon. Alors, j'insiste plus, la biodiversité végétale protège la santé, donc c'est global à tous les niveaux. On a intérêt à réduire les calories d'origine animale pour des raisons agronomiques et écologiques, parce qu'il y a une faible efficacité des productions animales. En France, par exemple, les cultures, pour 80% des surfaces, sont destinées à l'alimentation animale, alors que les animaux... les calories d'origine animale représentent 25 à 30% des calories dans notre assiette. Donc on ne peut pas continuer à augmenter la consommation de produits animaux pour des raisons agronomiques et écologiques. Et également, il ne faut pas le faire pour la santé. Une consommation excessive de produits animaux, que ce soit par les apports superflus de protéines ou de matières grasses, est relativement un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et parfois pour les cancers. Bon, par contre, culturellement ou nutritionnellement, on peut consommer des petites quantités de produits animaux avec de grands bénéfices. Donc il faut changer, il faut adopter un profil alimentaire plus durable, il faut consommer davantage de produits céréaliers, des féculents, beaucoup plus de fruits et légumes, légèrement plus de matières grasses végétales, et en plus choisir des matières végétales vierge, Donc, grosso modo, il faut réduire de 50% la consommation de produits animaux. Ce qui veut dire que vous faudrez adopter un comportement éco-végétarien. Sortir du végétarisme strict, avec pour finalité la non-consommation de viande, ça c'est pas tellement recevable, et bénéficier de l'intérêt nutritionnel d'un ensemble de produits animaux, mais limiter leur consommation, y compris celle des produits laitiers. Donc, voilà. Les produits laitiers, on a beaucoup recommandé on a exagéré, pardon, les besoins des apports nutritionnels de calcium et effectivement, la santé osseuse ne dépend pas seulement des produits laitiers, loin de là. Donc, grosso modo, il faudrait développer une vulgarisation simple et compréhensible par tous, composer des produits céréaliers peu raffinés, consommer une crudité à chaque repas, consommer une viande en produits laitiers une fois par jour seulement, choisir des huiles vierges plutôt que raffinées, réduire la consommation de produits transformés, ainsi de suite. Donc, c'est cette vulgarisation dont nous avons besoin. Nous aurions besoin de règles simples pour confectionner notre assiette. Je ne vais pas pouvoir vous les donner parce que... je voudrais insister maintenant sur le fait il faudrait donner à l'alimentation une dimension bioéthique nouvelle. Je sais que la bioéthique est souvent réservée aux problèmes médicaux. Je me permets de l'utiliser un sens plus large. Ça veut dire qu'il faut comprendre que nos choix alimentaires doivent permettre d'assurer la sécurité alimentaire pour tous les humains, le partage de la nourriture. Il faut une alimentation, une chaîne alimentaire qui préserve la nature, la fertilité des sols, qui préserve la biodiversité du vivant. Il ne faut plus instrumentaliser la vie animale. Il faut préserver le potentiel santé des aliments et dénoncer les facteurs de dénaturation ou d'appauvrissement. Si je dis à M. Neuzley et M. Danone qu'ils ne respectent pas une bioéthique élémentaire en matière d'alimentation, ils vont me regarder avec des gros yeux, et pourtant, ils font n'importe quoi. Donc, reconnaître et approfondir les bienfaits de l'alimentation, donner à l'alimentation une place primordiale dans la gestion de la santé, de même que l'exercice physique, bien sûr, responsabiliser et informer les personnes sur leurs droits et leurs devoirs en matière d'alimentation. C'est pas normal d'arriver « Docteur, j'ai un diabète » ou « Je suis machin » alors qu'on fait n'importe quoi. Non, écoute, tu fais un effort pour bien te nourrir, c'est quand même indispensable. Sensibiliser les acteurs de la chaîne alimentaire sur leur responsabilité dans l'élaboration de la qualité des aliments. Il y a réellement une irresponsabilité à beaucoup d'échelons. Et enfin, pour terminer, faire de la sphère alimentaire une exception culturelle. Comme la sphère culturelle et la santé, l'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. Il faudrait garantir à tous les agriculteurs du monde le droit de nourrir leur population, lutter contre la malbouffe, les excès de l'industrialisation et l'uniformisation alimentaire, donner aux citoyens la responsabilité de pérenniser leur agriculture, leur culture et la gestion de leur santé par l'alimentation. Il faudrait aussi responsabiliser les médecins en matière de prévention et d'accompagnement nutritionnel. Je vous remercie.
Merci de ces messages qui auraient besoin d'être approfondis. Voilà. Et donc, on aura le temps dans les débats. Alors maintenant, professeur Ménard, vous allez nous dire aussi comment on informe, comment on fait, comment on choisit, comment on fait avec le grand public. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Les industries agroalimentaires ont été étriées. Alors, vous allez peut-être nous donner une autre voix, je ne sais pas.
D'abord, je crois qu'en suivant ce qu'a dit Christian Rémézy, je suis content de l'élargissement du problème tel qu'il l'a abordé, en montrant aussi des composantes environnementales, des composantes sociales. Alors, je suis très content que vous soyez nombreux pour venir faire ici votre marché, mais je suis content aussi d'échapper à ce qu'a été l'enfer de ma vie au repas, ou quand arrivait le plateau de fromage, on disait « Joël, est-ce que tu penses que c'est bon ou mauvais pour mon cholestérol ?» etc., etc. Donc, si vous êtes venu pour avoir des recettes, je n'en ai aucune. Alors, donc, on va essayer de s'intéresser à tout à fait autre chose. Et on va commencer en préparant le sandwich de Petit Bruno. Notre petit garçon.
Ah, d'accord.
Oui, c'est notre petit garçon. Il peut pas. Ça va être, la journée va être dure, alors on va lui préparer un sandwich. Mais comment on va faire pour lui préparer un sandwich? C'est une sacrée question. On va peut-être prendre quand même, alors je parle sous le contrôle du maître du pain, on va prendre une baguette tradition. Bon, on va régler comme ça le problème du pain. Comme vous le remarquez, le sandwich a du temps à arriver. Mais ne vous inquiétez pas, il arrive. Il arrive. C'est pas un truc qu'on a préparé, qu'on a mis dans le frigidaire et qu'on sort. Ça ne se fait pas, des choses comme ça. On va le préparer sur table pour qu'il soit appétissant, qu'il apporte à peu près tout ce qu'a annoncé Monsieur Rémézy. Et après, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon sandwich. Suspense. Air de sécurité. C'est très bien. Il ne faut pas prendre n'importe quoi. Et cette diapositive montre qui avait été préparée pour introduire le sujet collait parfaitement. C'est pour ça que je suis content de ce qu'a dit M. Rémézy. Le problème de la nutrition n'est pas ce qu'on a dans son assiette et après ce qu'on va manger. C'est aussi, ça va, comme c'est une expression classique, de la fourche à la fourchette. Avec tout ce qui entoure toute la chaîne qui va se passer de la fourche à la fourchette. Et puis, une fois qu'on a la fourchette, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on creuse sa tombe avec sa fourchette? Alors, inutile de vous dire que j'avais complètement oublié l'introduction du bouquin de Tabuteau, puisque c'était il y a 2 ans à peu près que ça a été écrit. Et là, en pensant qu'est-ce que je pouvais vous dire pour vous aider à réfléchir au problème d'éthique sur l'alimentation, je suis retombé sur cette question de vision globale que je mentionnais dans le texte. Et au fond, le but peut-être de mon exposé, c'est que vous donnez une globalité du problème, de ne pas aller dans les détails, mais de voir comment vont s'articuler les uns et les autres. Et si je prends l'exemple du sandwich, c'est parce que quand vous réfléchissez à la composition d'un sandwich, la première chose à trouver, c'est le jambon. Alors là, le jambon, mais c'est l'horreur. Parce que on va vous parler de l'étiquetage nutritionnel. Mais j'espère que la diapositive vous rappelle ce qui se voit chez Monoprix, chez Carrefour. Vous allez regarder. Et vous allez regarder, qu'est-ce que vous allez regarder? Alors, vous avez vraiment des options formidables. Vous allez regarder éventuellement les prix. Hein, les prix, alors c'est pas inintéressant puisque ça va se varier dans un ordre de 1 à 4. Le kilo de jambon peut se situer aux environs de 10-12 euros. Il y a des jambons très sophistiqués qui vont monter à 35 euros. Donc tout de suite, à travers le prix, qui est finalement le repère de la majorité des gens, et déjà pour avoir cherché le prix de tout ça, ça a pris du temps, souvent vous choisissez en fonction du prix. Est-ce qu'il peut éventuellement vous expliquer un problème majeur de la nutrition qui est celui des inégalités sociales? Parce qu'il y a des gens qui vont choisir sans avoir besoin de regarder le prix, ils vont regarder ce qu'ils connaissent et ce qui est le plus agréable à manger d'après leur expérience, et puis il y en a d'autres qui ne pourront regarder rien d'autre que le prix. Et quand je vous dis le prix des tranches de jambon, c'est pas pareil de sortir 2 euros ou de sortir 4 euros. C'est pas du tout la même chose. Et il faut être conscient de ce problème-là. Je vais prendre 3 exemples. Vous pouvez choisir du jambon supérieur. Alors, jambon supérieur, ça n'a aucune signification. Jambon supérieur, c'est de la publicité pure. Moins 25% de sel, c'est contrôlé, ça doit être vrai. Et puis le sommet, bien évidemment, vous allez manger bio. Alors, je regarde votre âge moyen dans la salle et je me dis quel malheur que vous n'ayez pas mangé bio. Car au maximum, pour vous, les carottes sont cuites. Le prendre du bio maintenant, alors qu'on a vécu pendant 60 à 70 ans en prenant du normal, exposé aux particules, exposé au moteur diesel, exposé au plomb dans l'essence, exposé à tout, au fond, maintenant, ça doit le faire, ça doit passer. Alors, le bio, c'est la dernière chose, mais quand même, vous voyez qu'on va passer de 15 € par kilo à 33 € par kilo. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, une fois que vous avez regardé les jolies couleurs qu'il y a sur ces choses-là, vous allez regarder, pour votre petit garçon Bruno, vous allez regarder quel est celui qui éventuellement va vous présenter ce qu'a dit Christian Rimézi, c'est-à-dire le moins de matière grasse possible, se méfier en particulier éventuellement des acides gras saturés, regarder s'il y a des glucides. Le jambon, c'est des protéines, c'est important. Vous voyez que pour des prix de 1 à 2, vous aurez le même nombre de protéines, si vous croyez des protéines, 21 grammes, 22 grammes, 21 grammes, enfin la différence de prix est de 3 fois. Et puis moi, comme spécialiste de l'hypertension artérielle avec mon ami Pierre Corvol, nous on regarde bien sûr le sel et on voit que ce torchon à moins 25% de sel de Fleury Michon va donner 1,4 grammes de sel, que le jambon supérieur va en donner 1,8 grammes et que le bio va donner 1,4 grammes. Donc, déjà, pour préparer le sandwich de Bruno, on a passé pas mal de temps à réfléchir. Parce que l'autre problème, c'est que j'espère que vous voyez ce que je vous ai détaché, mais il est évident que vous voyez rien du reste, puisque l'affichage nutritionnel est quasiment fait pour que n'importe qui, personne ne voit les choses. Hein, c'est tout petit. Quand on a pris toute la place avec le torchon, moins 25% de sel, ben, il ne reste plus beaucoup de place pour le reste. Donc, vous choisissez au mieux. Je ne vous conseille rien de particulier en la matière. Regardez aussi, d'ailleurs, parce que j'allais l'oublier, mais il faut quand même savoir si les animaux n'ont pas été élevés aux antibiotiques, hein, parce qu'en particulier, si jamais ils viennent du Canada ou s'ils venaient par malheur des États-Unis, il faudrait aussi se méfier des antibiotiques. Et puis, il y a eu de temps en temps des tas d'histoires que j'oublie. Deuxième partie de votre sandwich, la très importante, 5 fruits, 5 légumes. Donc, vous allez choisir pour petit Bruno, avec beaucoup de soin, des tomates et des concombres. C'est un joli mélange, le jambon, le pain, la baguette, une toute petite couche de beurre pas salé, bien sûr, éventuellement, pour que ça soit un petit peu meilleur. Et puis, vous voulez quand même savoir ce que vous lui donnez, donc on vous apprend que les tomates, ça va être bon pour la santé cardiaque, et vous pouvez en prendre en prévention contre le cancer. Et si vous retenez simplement ça, vous direz, en discutant avec les amis, moi je mets beaucoup de tomates, parce que comme ça, j'aurai pas de cancer. Vous riez, mais malheureusement, c'est le contenu des livres qui paraissent quasiment tous les mois. Et comme les livres qui paraissent tous les mois aboutissent à des interviews dans les différentes chaînes télévisées, ben, tous les mois, vous apprendrez que les tomates, peut-être même les tomates, c'est bon pour la prostate, direct. Alors, ayant choisi les tomates, maintenant, vous allez prendre les concombres et vous ajoutez le concombre, puisqu'il c'est bon, il est riche en potassium, il est riche en fer, il est riche en calcium, il est riche en phosphore, il est riche en magnésium. Donc vraiment, pour votre petit garçon, vous lui faites un beau sandwich et vous lui donnez ce qu'il y a de mieux, avec des jolies couleurs, rouge, vert, voilà de la bonne nutrition. Malheureusement, alors, ne vous inquiétez pas, je dramatise, mais je veux quand même vous donner des messages qui vous marquent. Au moment où vous finissez votre sandwich au concombre, vous vous rappelez l'histoire des concombres espagnols. Alors, l'histoire des concombres espagnols, qui est de 2011, est la suivante. une maladie épouvantablement grave, qui est le syndrome hémolytique urémique, qui donne des anuries, des insuffisances rénales, et laisse des séquelles quand on guérit du rein, ce qui n'est pas toujours le cas, peut laisser également des séquelles cognitives, des séquelles au niveau du cerveau. Eh bien, l'hôpital de Hambourg, après qu'un certain nombre de cas se soient produits, a réalisé avec retard que des séries, une épidémie de plus de 3 cas de syndrome hémolytique urémique arrivent en Allemagne. Donc, 2011, et on voit les petits-enfants hospitalisés en anurie. Et puis on voit surtout que pendant un certain temps, qui va être de 2 mois, le monde entier va vivre suspendu à l'origine de l'épidémie. D'où vient-elle? Pourquoi se répand-elle? Pourquoi il y a des cas en France? Pourquoi il y a des cas en Hollande? Et là, on a le vrai problème majeur sur lequel il ne faut jamais lâcher, qui est celui de la sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce que disent les gens quand ils apprennent ça? Eh bien, Coop annonce que par précaution, nous avons immédiatement retiré tous les concombres d'Espagne dans toute la Suisse. En Allemagne, le marché s'effondre et les Français, comme ils l'ont fait autrefois pour l'affaire du sang ou pour la vache folle, nous, on a des productions qui sont de tellement bonne qualité que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver en France, et c'est normal que ça arrive en Espagne, puisque c'est les Espagnols, finalement, ils payent pratiquement pas les gens, c'est ramassé n'importe comment, et c'était prévisible, ça finirait par arriver aux Espagnols. Entre-temps, les ménagères ont arrêté de prendre du concombre, bien sûr. Alors, manque de chance, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, et on ne rit pas, parce qu'on a 4000 personnes de touchées sur toute l'Europe, et on a eu au total 85 morts de 2011, en un intervalle de temps de 3 mois. Donc, je vous présente l'affaire pour que vous voyez sur le plan social ce qui se passe, ce que disent les politiques, ce que disent les journaux, et vous voyez ce qui se passe à l'hôpital en même temps. Donc, on est en train de toucher du doigt un drame de la sécurité alimentaire. Eh bien, en examinant de près la souche d'Escherichia coli qui est la cause, on arrive à en déterminer la structure, on cherche partout ce qu'ont consommé les gens, qu'on fait toujours quand il y a un problème comme celui-là, une enquête alimentaire, et on arrive sur cette question des graines germées bio, protides végétales, importantes, que c'est normal d'en prendre davantage, c'était pas connu autrefois, c'est connu maintenant, c'était connu des Égyptiens, et d'ailleurs, comme par hasard, celle qui est concernée ici vient d'Égypte. Et d'Égypte, elle a transité en Allemagne, et au moment de la germination des graines, l'Escherichia coli, la bactérie qui était présente, s'est mise à proliférer. D'où venait la contamination? On ne le sait pas, on peut tout imaginer, on peut même imaginer des contaminations volontaires, on ne sait pas. Mais tout au moins, on a l'origine de la maladie, puisqu'on retrouve dans les germes et chez les malades le même génotype de l'Escherichia coli qui a causé la maladie et les décès. Mais alors vous me dites, mais les Espagnols là-dedans, ben oui, il n'y a jamais eu de crise de concombre. Alors je suis content de vous le dire, parce que comme ça, le sandwich que vous avez préparé à base de tomates et de concombre pour le petit Bruno, finalement, il a encore jamais été mis en cause. C'était donc une contamination qui venait de toute autre chose, mais qui a entraîné des tonnes de non-ventes des produits dans toute l'Europe, des guerres quasiment politiques avec une position en pointe des Russes qui se sont servis de ça pour empêcher le commerce sur des choses qui éventuellement ne les arrangeaient pas. Et on est arrivé à une crise financière, à une crise diplomatique, à une crise sociale et à une crise médicale. Donc on a une contamination, la crise médicale, la crise politique, la crise sociale. Voilà un aspect de l'alimentation qu'il faut toujours garder en tête, et vous savez très bien que le risque infectieux, quel que soit le domaine, n'est jamais gagné. Vous avez eu le Zika, vous avez eu Ebola, et nous aurons autre chose. Et si nous n'avons pas autre chose, c'est parce qu'il existe un système extrêmement complexe, bien sûr, de contrôle des efforts majeurs qui sont faits par l'Europe, par la France, par tout le monde, pour éviter ce genre de problème. Alors, comment, dans les problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition, comment prend-on une décision? Et qui est responsable? Et donc, quelle est la responsabilité de chacun d'entre nous? C'est pourquoi j'ai préparé une dernière diapositive où je vous demanderai quelle est l'éthique que chacun des participants de cette longue chaîne doit avoir en tête, en référence de valeurs morales, de valeurs philosophiques, de valeurs religieuses, peu importe. Mais le point important de cette chaîne de connaissances, il faut la comprendre et la disséquer. Alors, sa base première, c'est la recherche. Il y a 385 laboratoires de recherche en nutrition en France. Il y a les centres de recherche sur la nutrition à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Nantes, à Paris. On est équipés. Il y a des épidémiologistes. Et il y a plusieurs techniques animales, des observations des médecins, des observations de population, des interventions où on supplémente en vitamine, une vitamine ou deux vitamines, ce qui n'a jamais marché, puisque la nutrition, c'est beaucoup plus compliqué que des vitamines, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Mais la première chose à savoir, c'est si l'outil qu'on utilise pour dire telle ou telle chose, c'est un bon outil ou un mauvais outil. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'expérimentation animale, oui ou non, etc. Et chacune des techniques doit être produite. Donc il faut des chercheurs pour la produire, des chercheurs indépendants, des chercheurs qui se sont posés des questions. Et une fois que les recherches ont donné des résultats, il faut une expertise des recherches. C'est-à-dire voir si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, si elles vont avec les autres. Et ça, c'est tout un métier. Et les gens croient que la science, c'est la vérité. Non, la science, c'est la progression et le transfert progressif des vérités. Ce qui fait qu'on est toujours, en tant que scientifique, mal à l'aise, puisque, à travers les différentes études qui vont être faites, elles ne vont pas amener une unanimité facile. Et dès l'instant qu'il y aura débat, il n'y aura pas seulement un débat scientifique maintenant, mais il y aura un débat médiatique. Débat scientifique, débat médiatique. Et ça change complètement les choses, parce qu'à l'occasion de ces débats, les intérêts financiers des gens, les intérêts sociaux des gens peuvent être mis en cause. Et je ne parle pas des angoisses éventuelles dans la population des uns ou des autres. Donc quand on a fait la recherche, encore faut-il la payer et la subventionner de manière indépendante. Quand on a fait l'expertise, avec également des gens indépendants, le conflit d'intérêts, qui est indépendant, il faut faire une politique de santé. Alors, qui prend la décision? Eh bien, c'est le ministère de la Santé. Mais comme vous l'a montré Rémézy, le ministère de l'Environnement est concerné. Le ministère de l'Agriculture est concerné. Le ministère de l'Industrie est concerné. Le ministère des Finances pour contrôler l'ensemble des produits. Donc quand il y a quatre ministères en France qui travaillent ensemble, on commence à souffrir. Parce que faire travailler les gens ensemble, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Alors faire travailler ensemble 3-4 personnes, des fois, c'est pas simple, mais faire travailler tous les ministères ensemble, c'est difficile. Et c'est pour ça que la prise de décision politique, prise entre la complexité du problème, la complexité des organisations et les réactions des gens, est une chose difficile. Donc dans mon exposé, moi je ne veux pas vous dire que le politique ne prend pas les bonnes décisions au bon moment, vous l'entendrez dans les journaux, tout le monde le dit, c'est tout le temps, c'est un refrain. L'homme politique est actuellement, en particulier, très critiqué. Simplement, dans ce que j'ai pu en voir, la décision politique, c'est difficile. Même pour les gens travailleurs, intelligents, bien conseillés, etc. Ce qui arrive assez souvent. Alors, après, quand la décision est prise, ça ne suffit pas. Parce que dire qu'on va annoncer qu'on va faire quelque chose, après, faut le faire. Il faut le décliner. C'est pas dans un bureau de l'avenue de Ségur qu'on va faire la politique de santé. c'est pas, si on va dans la, je vais prendre ma région, Nantes est très importante, mais c'est pas, tout va pas se décider à Nantes. Il faudra se décider à Saint-Nazaire, il faudra se décider, et dans toutes les villes. Donc il faut savoir à quel niveau on décline. Et il faut savoir qui on vise pour appliquer cette politique. Les hôpitaux, les entreprises, les écoles, etc. Et puis, au moment où on applique la décision, elle est sous surveillance par des gens souvent non compétents, et de deux manières, par les journaux, par Internet, par les tweets, par tout ce que vous voulez. Donc, la situation d'aujourd'hui a complètement changé par cette vitesse de diffusion de l'information qui, à un certain moment, n'est plus contrôlable. Donc, il faut avoir un retour d'information de manière à modifier les décisions si elles sont mauvaises. Elles peuvent être mauvaises. Mais dans les gens qui les analysent comme mauvaises, ils ont des choses qui sont respectables et des choses non respectables. Respectables, ils croient à quelque chose, ils l'ont analysé, ils pensent qu'ils ont la vérité, c'est respectable. Puis il y en a d'autres qui ont leur os à ronger. Alors l'os à ronger, il y en a deux types. Il y a l'argent et il y a la gloire. Donc, une fois qu'on a pris une position, on ne recule plus et on devient le défenseur de... Alors, les Grèces, le régime censé, tout ce que vous voulez, des choses qui sont très bonnes, très mauvaises, peu importe, mais les gens ne bougent plus leur position. Les consommateurs doivent être, ils le sont, depuis longtemps, avec Peut Choisir, avec 60 millions de consommateurs, dans l'effort qu'on avait fait sur le sel, ils ont été extrêmement importants, puisque c'est eux qui ont fait les mesures que le gouvernement ne voulait pas ou ne pouvait pas faire. Donc il se déroule sous nos yeux ce qu'on appelle, ce que les Américains ont synthétisé en K2A, Knowledge to Action, de la connaissance à l'action. Et c'est un mouvement perpétuel, complexe, avec beaucoup de gens autour, dans lequel intervient maintenant une diffusion incontrôlable et incontrôlée. Et après se pose le problème de la liberté, bien sûr, aussi, qu'il faut respecter. On n'a pas à avoir une ligne politique pour faire de la nutrition. Hein. C'est pas possible, c'est pas souhaitable. Alors on regarde, par exemple, sur cette diapositive, les différents cancers. Le cancer du sein en haut, le cancer du poumon en bas. Et les études quantifient un risque qu'on appelle le risque relatif. Et ce travail est fait ici à partir des méta-analyses de ce qui est disponible dans la littérature mondiale. Hein, c'est des tonnes de résultats. Et vous regardez avec horreur que vous pouvez trouver aucun risque, moins de risque, plus de risque, et qu'il n'y a que très rarement des études qui soient convergentes. Alors, quand vous regardez de l'autre côté le type de consommation, je vais chercher, puisque c'était un peu... mon domaine, voilà le sel. Donc toutes les études montrent un bénéfice ou un risque, ou un, si c'est un, ça dépend comment on l'interprète, mais si vous regardez l'augmentation en sel de l'alimentation, vous avez un risque accru qui va être des fois très petit dans certaines études, plus grand dans d'autres, et on peut avoir des domaines dans lesquels il y a peu de divergence. Mais ce n'est pas vrai complètement. Vous pourriez me dire, mais le sel, moi j'en avais entendu parler aussi du temps de ma grand-mère. Marcel Proust a écrit sur l'insuffisance cardiaque, je crois, de sa grand-mère qui avait des édèmes, qui disait que les soupes salées, c'était pas très bon. Et pour une fois, c'est les Français qui ont trouvé ça. D'ailleurs, sur l'insuffisance cardiaque. Là, sur l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas de débat. Et ça a été trouvé au début des années 1900. Et bien, aujourd'hui, on est en 2016. Il y a encore, dans la littérature, quand vous la refaites complètement, vous pouvez trouver des travaux pour, supportives, des travaux contre, des travaux sans résultat, et les différentes études, là, pour essayer d'avoir dans sa tête ce qui se passe réellement, il faudrait avoir lu, compris et mémorisé, dans ce travail fait par un Français, Ludovic Trinquart, qui est actuellement à Boston et qui vient de faire ce travail-là, cette année, il faudrait avoir analysé, compris et mémorisé 269 articles. C'est impossible. C'est impossible. Alors après, on résout ça en faisant des groupes d'experts. Donc comme chaque expert a lu de préférence tel ou tel article, le groupe d'experts, c'est des solutions difficiles. C'est la moyenne. Et parfois, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors, je prends l'exemple... je ne prends pas l'exemple du sel, parce qu'il vient de me donner un papier me disant que j'avais 5 minutes. Donc je vais vous mettre au sans sel. Je ne vais pas vous parler du PNNS, puisque Christian en a parlé, mais simplement je vais vous dire une chose qui est mon résultat, tel que je l'analyse. C'est un travail fantastique qui a été fait par Serge Herzberg, Arnaud Badevant et quelques personnes en France, qui ont eu le courage de résister à tous les hommes politiques, tous ceux qui sont interviewés à la télévision. Et bon an, mal an, ils ont continué un plan qui était un plan logique, bien fait, bien pensé. Mais la réalité qu'il faut voir, et que Serge ne peut pas vous dire, mais que je peux vous dire, c'est que de 1997 à maintenant, quand on mesure le poids, les Français grossissent. Ils grossissent comme les autres. Mais comme ils partent être plus bas, ils sont quand même dans l'ensemble un petit peu plus bas. Mais je veux dire par là que, sauf changement complet de nos méthodes, on va continuer tranquillement à faire des plans pour regarder grossir les Français comme on regarde grossir les cochons. Donc il faut intervenir là-dessus. Alors, 5 minutes, c'est très difficile pour moi parce que je voudrais que vous croyiez qu'on peut faire des interventions. Alors, Christian, je prends un pays particulier parce que c'était un pays caractérisé par une grande fréquence d'accidents vasculaires cérébraux, premièrement. Deuxièmement, parce que ils avaient une mobilisation possible, c'est-à-dire que deux fois, on ne se fait pas entendre en France, mais on se fait plus facilement entendre dans les pays étrangers. Et nos liens avec les médecins portugais et avec la société portugaise ont permis d'avoir 10 ans d'approche du problème vraiment correctement, je crois. Alors vous voyez que exprimé par 100 grammes de pain, il y a une grande variabilité du contenu en sodium du pain. Les gens vous diront, mais le pain sans sel, c'est dégueulasse, mais on ne discute pas le pain sans sel. On discute des habitudes qui avaient consisté à balancer du sel sur la pâte pour des raisons que M. Rimesi connaît très bien et qui ont abouti à de très grandes divergences. Et en particulier au Portugal, pays qui a beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont liés en partie tout au moins au sel, on voyait qu'ils avaient plus de sel dans leur pain et qu'il y avait une grande variabilité du sel d'un endroit à l'autre du Portugal. Donc les Portugais ont pris une loi, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas plus de 18 grammes de sel par kilo de farine. Pas beaucoup moins? Beaucoup moins? Bon, peut-être. Bon, ok. Bon, 12 ou 15, allez. Donc ils ont baissé. Nous, on était partis de 22 grammes à peu près. Hein? Voilà. Eh bien, vous voyez deux choses. Un, le pays dans son ensemble, a diminué sa consommation de sel, et surtout, l'hétérogénéité qui existait a disparu, parce que c'est un problème qu'on pouvait aborder avec l'accord des professionnels. Quand j'étais déjà, je l'avais eu avec M. Brochoire, qui s'occupait de l'enseignement des mitrons, et Dieu merci, maintenant M. Brochoire et ses collègues ont enseigné davantage, la situation peut s'améliorer, mais les décisions brutes d'intervention réglementaire n'ont pas eu lieu. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le marketing social, donc, mais bien fait, bien organisé. Donc là, je prends encore l'exemple du sel, puisque malheureusement, on pourrait le prendre pour d'autres exemples. Vous voyez que quand pendant 2 ans, vous faites des efforts bien organisés d'instruction de la population, au début, vous avez un Portugais sur 3 qui dit qu'il a entendu parler du sel, et à la fin, vous avez 2 Portugais sur 3 qui disent qu'ils ont entendu parler du problème du sel et qu'il ne faut pas en bouffer de trop. Alors, l'homogénéisation. Alors, quand on veut intervenir, on a à notre disposition beaucoup d'outils. Et les gens vous diront qu'ils sont contre telle action. Mais le problème n'est pas de faire une action, c'est de faire plusieurs actions. Donc des actions sur les prix. Alors, on peut taxer, on peut donner des subventions, on peut trouver des engagements économiques. Donc on joue sur les prix pour donner des prix les plus bas si c'est possible aux nourritures recommandées et éventuellement des prix plus hauts aux nourritures non recommandées. Il faut choisir l'endroit où on intervient. Alors l'endroit où on est sûr, parce qu'en plus il y a des travaux français à Fleurbem et Lavandy qui l'ont bien montré, quand on intervient dans les écoles, on peut avoir un double effet et sur les enfants et sur les parents. Mais c'est pas des petites interventions, c'est du boulot, ça demande du temps, ça peut coûter de l'argent, mais dans mon opinion, et là je sépare bien les faits et l'opinion, si aujourd'hui, au lieu d'avoir mon âge, j'avais 30 ans, c'est au niveau, à ce niveau-là qu'il faut commencer. Et c'est vrai également pour le cerveau, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc tout se joue très tôt, il faut agir très tôt et agir sur la cellule familiale en même temps. Et vous voyez bien que c'est très difficile puisque les cellules familiales sont devenues de plus en plus floues et de plus en plus variables. Les produits, il faut intervenir sur les produits. Alors, sur beaucoup de choses, sur les additifs, sur des reformulations où il y aura moins de tel ou plus de tel ou tel produit, je prends le sel ou d'autres. Il faut intervenir sur les publicités. Les allégations santé, vous avez vu au début le baratin qu'on peut faire sur les aliments pour les vendre sous une forme ou sur une autre. Il faut organiser des campagnes d'information. Et enfin aussi, il faut intervenir sur le plan personnel. Et c'est souvent comme ça que les gens le voient le plus. Mais en termes de santé publique, l'intervention d'individu à individu pour lui conseiller ce qu'il faut faire et le prendre en main avec une diététicienne, etc., c'est ce qui coûtera le plus cher et ce qui aura l'impact le plus faible, puisque les gens les plus défavorisés ne viendront pas dans ce système et viendront dans le système des gens un tout petit peu particuliers. Alors, je vais terminer par une plaisanterie et ma dernière diapositive, comme ça on coupe les choses. Je ne peux pas m'empêcher, parce que je trouve que c'est une histoire formidable. Les Anglais ont trouvé une publicité pour montrer les dangers du sel, qui est celle de Sid la limace. Donc je ne sais pas si parmi vous, certains ont entendu parler de Sid la limace. Mais, à ma grande surprise, cette idée-là est venue aux environs des années 2004, et ma petite fille, qui est âgée de 15 ans, m'a dit, l'année dernière, qu'avec ses copines, à la suite d'un truc qui circulait sur YouTube, elles avaient pris une limace, et elles l'avaient mise sur le sel. Sur du sel. Alors c'est formidable quand on met une limace sur du sel, la limace est pleine d'eau, le sel manque d'eau, donc l'eau quitte petit à petit le corps de la limace pour venir dans le sel, et on voit la limace sur le YouTube qui diminue de taille jusqu'au point où, probablement, elle meurt. Alors, ma petite fille s'est malheureusement, je dirais, amusée à faire ça, et deuxièmement, les fabricants d'alimentation ont fait interdire cette publicité qui voulait donner comme message « le sel tue ». Alors, ils ont dit « ça tue la limace ». Oui, mais alors le grand débat actuel, c'est l'étiquetage des couleurs dont on ne va pas sortir vivant, c'est impossible d'en sortir puisque chaque pays a son truc, mais enfin j'espère qu'on va progresser. Et je vais résumer quelque part les questions que je souhaite vous poser, que vous allez emmener avec vous pour réfléchir. Chacun, le message que je veux vous donner... Chacun doit se comporter d'une certaine façon selon certains principes. Et Christian Remezy les a élargis à l'environnement, le respect de la biodiversité, au respect de l'animal, etc. Donc, quand tu as parlé de bioéthique, il y a une bioéthique qui a été très bien montrée, qu'il faut garder en tête. Les raisons pour lesquelles on nous montre les cochons abattus dans les abattoirs sont probablement difficiles, on ne sait pas comment faire, mais enfin, c'est une réalité. Donc, le chercheur, quel est la responsabilité du chercheur? 1. De faire de la bonne recherche. 2. De discuter ses résultats objectivement, mais surtout pas pour dire qu'à tout prix il a fait une découverte. Parce que le chercheur dérape. Il croit qu'il a trouvé quelque chose de nouveau. Il est tellement heureux. Je suis chercheur, je fais des bêtises comme les autres. Mais, ou alors je fais pas beaucoup de découvertes et à ce moment-là je fais pas de bêtises. Mais chaque personne qui fait des études doit ne pas s'emballer et aller transformer une étude en dogme. C'est simple, on se fait interviewer, c'est très facile. Les financeurs des études, oui, c'est complètement idiot. Oui, on peut être financé par Danone et Nestlé. J'ai visité Danone, j'ai visité Nestlé. L'industrie agroalimentaire, elle a les mêmes défauts que d'autres industries, industrielles, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même des gens, des chercheurs, qui travaillent très bien. Il y a des types qui sont moralement responsables des choses et qu'on peut toucher. Donc on peut faire des études subventionnées sans avoir d'intérêt. Et nous, on le sait très bien sur le médicament. Alors maintenant, c'est devenu très simple, l'affreux industriel, les victimes, etc. Mais tout ça, c'est de la rigolade, c'est du baratin. La promotion des résultats par les chercheurs, les institutions, la pression des médias, l'orgueil, non pas seulement du chercheur, mais de l'institution. Parce que l'INRA, pour avoir de l'argent, l'INSEM pour avoir de l'argent, ils sont bien obligés d'avoir une cellule de communication. Parce que comme ça, ils peuvent dire aux financeurs, mais nous, on est sur un truc fantastique, on a telle et telle chose. Bien. Donc, l'éthique du chercheur est largement mise en cause dans les problèmes de nutrition, avec cette manie d'aller au moindre résultat, se faire interviewer sur les télévisions et obligatoirement déraper. Ce n'est pas possible. Bourdieu avait écrit un essai sur la télévision. C'est pas possible de ne pas déraper et de donner une information, parce que si vous donnez la vraie information avec vos doutes, les gens quittent le poste. Au niveau des lecteurs et des auditeurs, la crédulité des gens, ou la confiance, est-ce qu'on a confiance, est-ce qu'on est crédule? Les distributeurs, quel est leur rôle dans le détail, dans la place des aliments dans le magasin? Quand on met les petites chocolateries auprès de la caisse, les gens y sont tentés, c'est normal. Les allégations santé, je vous avais montré tout un tas d'exemples. Donc les distributeurs aussi doivent avoir une morale sur l'information et sur le type d'achat qu'ils font, puisque les achats devraient correspondre à aussi une bioéthique en amont. Donc ils sont obligés de regarder en aval vers les gens et en amont. Le font-ils? Y pensent-ils? Au niveau des consommateurs, moi j'avais sélectionné le commerce équitable avec facilitant certains achats. Et puis, un énorme problème, puisqu'il y a quand même des gens qui crèvent de faim, c'est le gâchis, hein, c'est le nombre d'aliments qui sont foutus à la poubelle par les uns et par les autres. Et c'est d'autant plus dramatique que la seule manière de ne pas grossir, c'est quand même d'avoir des portions de tout, mais des petites portions. La beauté de la grande cuisine française, c'était quand même d'avoir une très belle assiette et très peu de choses au milieu. Moyennant quoi, on part plus bas que les autres. Mais c'est un coup de génie d'avoir fait ça. Et quand on a voulu faire le plan nutrition santé et la politique, pour réussir une politique, il faut la faire en 10 ans. Mais non, la bonne cuisine, c'est un argument de vente pour la France. Les agriculteurs, les médecins et tout, ils ont intérêt pour leur pays à être meilleurs que les autres. Et pas au contraire à freiner. Donc au niveau des consommateurs, les médias, faut quand même, à la fin, que les gens se rendent compte que si quelqu'un avait la solution d'une nutrition parfaite qui empêcherait le cancer et les maladies cardiovasculaires, etc., il y a des tas d'excès à corriger, il y a des tas de choses à faire, plein de choses à faire, mais il n'y a rien à vendre. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Et enfin, au niveau politique, et c'est là où ça devient très difficile, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une décision à prendre, elle va changer quelque chose pour favoriser quelque chose et diminuer une autre. Donc, ça va être impossible aujourd'hui, ou très difficile, de vouloir changer en plus quelqu'un qui vous dit « mais il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut que vous fassiez ça, il faut des oméga-3, il faut ce que vous voulez ». Et puis les autres qui vont vous dire « mais non, mais c'est pas vrai, les nitrites, ça n'a jamais fait de mal à personne, et puis les nitrites, on les a déjà tellement diminués que les diminuer encore plus, ça sert à rien et rien n'est démontré ». Donc, il y a tout un tas de lobbies qui en permanence s'exercent sur les directions d'administration, au niveau de l'Europe, au niveau du ministère, et quand le ministre est pris au milieu de tout ça, prendre les décisions n'est pas simple, car les gens que vous avez en face de vous sont prêts parfois à aller jusqu'au bout, soit de leurs croyances, soit de leurs intérêts. Donc regardez bien cette liste, dites-vous bien que chacun d'entre nous est concerné par cette éthique de l'alimentation, quel que soit le niveau où on travaille. Et on est tous des consommateurs, donc on est tous concernés. Merci de votre attention.
Voilà, merci beaucoup pour cette leçon de choses avec à la fois de l'humour et des messages forts. J'aurais bien aimé être votre étudiant dans vos cours de santé publique, ça m'aurait beaucoup plu. Alors, il nous reste 10 minutes, c'est ça? Ah, très bien, d'accord. Pour des questions, on a abordé, vous voyez, des questions à plusieurs niveaux, des questions de justice sociale, des questions d'information, toute une grille là, avec des convictions fortes aussi sur ce vers quoi nous devons aller, avec des convictions fortes aussi sur quand même des types d'alimentation, Donc il y a plusieurs niveaux sur lesquels on pourrait s'interroger. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de convictions, il y a des méthodologies aussi de décision politique dont nous avons perçu, je pense, la complexité. Alors maintenant, ce serait intéressant avec vos questions, ce que vous entendez, des réactions aussi, vos convictions personnelles, les réactions aussi par rapport aux exposés, les défis de santé publique, les défis politiques, les responsabilités des consommateurs, les industries agroalimentaires, etc. Ça fait beaucoup de sujets. Donc merci de partager vos questions. Oui, alors allez-y.
Alors une question de Bordeaux par rapport à la peur du gluten. On en parle beaucoup. Est-ce une info ou de l'intox?
Oui, la question du gluten est certainement exagérée. On va dire que il a fallu trouver une molécule responsable de tous les maux, et sachant que il y a tout qui a changé, c'est-à-dire à la fois le mode alimentaire, la transformation des aliments, le blé lui-même, la panification, tout a changé. Alors effectivement, il faut s'interroger sur les conséquences de tous les changements et puis ne pas prononcer un mot magique gluten responsable de tous les maux. Parce que d'ailleurs, le gluten est lui-même fait d'une très grande diversité de molécules. Donc c'est pas le même gluten dans des blés anciens, dans des blés modernes, dans... le blé dur, dans le petit épeautre. De même, la préparation des aliments contenant du gluten est très différente. Ce n'est pas la même chose dans une pâte alimentaire, dans du pain ou dans du biscuit. Donc on voit bien qu'il y a une grande confusion et des messages très réducteurs de phobie du gluten. Alors, pour faire bref, grosso modo, il faudrait cesser de sélectionner le blé sur uniquement des critères technologiques de force boulangère. Donc il faudrait revenir à des forces boulangères plus raisonnables. Il faudrait cesser de rajouter du gluten sous-produit de l'amidonnerie dans les farines. Il faudrait adopter la panification au levain, parce que le levain commence à amorcer la dégradation du gluten. Et surtout ensuite, il faudrait que chacun adopte un régime protecteur, un régime qui renforce l'imperméabilité intestinale. Les calories vides, le sucre, le gras ou bien certains problèmes digestifs vont augmenter la perméabilité intestinale. Dans ces conditions, c'est dans ces conditions-là qu'il peut y avoir développement d'une hypersensibilité au gluten. Donc, grosso modo, c'est l'ensemble de la sphère alimentaire qu'il faudrait améliorer si on veut supprimer ce problème.
Vous voulez dire un petit mot ? Non, c'était exactement. Il y a juste la petite partie médicale des maladies. Il faut faire le diagnostic de certaines maladies assez tôt, d'intolérance au gluten.
Mais ça, c'est la maladie cœliaque.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est le problème de santé publique, c'est ce que tu as dit. Oui. D'autant, il ne faut quand même pas oublier, si 15 jours quelqu'un se plaint, d'imaginer, de penser à ce diagnostic-là. C'est une maladie rare, encore relativement rare. Quoique, à partir du moment où les médecins s'intéressent à une maladie, elle devient fréquente.
Donc, ça aboutit à une nutrition individualisée qui est catastrophique, parce que bientôt, on ne pourra pas partager le repas avec personne. L'un qui va être sensible aux produits laitiers, l'autre au gluten, le troisième, c'est n'importe quoi.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre quelques questions en même temps, comme ça va permettre...
Question pour,
parlez bien devant le micro, s'il vous plaît.
Monsieur Ménard, deux questions. Donc, la première, pourquoi est-ce que, effectivement, parfois le ministère de la Santé ne travaille pas suffisamment avec les autres ministères? Par exemple, on a supprimé des effectifs dans les DGCCRF et DDSV. Est-ce opportun au vu du contexte actuel? Et que dit le ministère de la Santé de cette chose? Ensuite, concernant la santé, je suis un peu étonnée du manque de prise en charge suffisamment globale de certains médecins, mais ce n'est pas les médecins, c'est-à-dire de la médecine en général. Exemple, j'ai un ami là qui a des problèmes cardiovasculaires. Il a eu des problèmes cardiovasculaires. Mais en fait, il s'est fait opérer donc, de la jambe, etc. Il avait lui a retiré quelque chose. Mais on ne l'envoie pas voir un nutritionniste. On ne s'interroge pas, on ne se demande pas ce qu'il mange. Or, précisément, moi, je le connais très bien. Je sais qu'il mange beaucoup trop de sel, beaucoup trop de graisse saturée. C'est un agriculteur qui les produit, donc du coup, il les mange. Bon, enfin, voilà, mais ça pourrait être une autre personne. C'est bizarre qu'il n'y ait pas ce suivi parce que ça va recommencer. D'ailleurs, il doit avoir une autre opération et lui pense, comme il n'est pas très instruit, que du coup, les choses sont solutionnées par des petites opérations. Vous voyez le problème quand même.
Merci. Vous avez un problème ? Oui, c'est à vous. Allez-vous. À vous.
Bonsoir. Moi, j'avais une question sur le fait de, en tant que consommateur, parce que donc au niveau de l'alimentation avec plus de nutriments végétaux, donc ça, je suis tout à fait en accord avec ça. Mais c'était surtout comment pouvoir évaluer soi les carences potentielles. Donc comment évaluer combien il faut de glucides, combien il faut de lipides, combien il faut de protéines, et après de pas parce que arrêter les consommations animales, finalement, comment retrouver un dosage, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une prise de sang ou un moyen de savoir évaluer soi-même ce dont notre corps a vraiment besoin.
Merci, on va peut-être rester pour l'instant sur ces deux questions. Alors peut-être répondez à la dernière directement.
Si vous voulez, ce que je prône, j'ai un comportement le plus commun, le plus adoptable par tout le monde, c'est le comportement éco-végétarien, c'est-à-dire c'est de ne pas supprimer les produits animaux, mais de modérer la consommation de produits animaux. Donc si vous faites cela, et si vous ne consommez pas de produits ultra transformés, des sodas, donc il n'y a aucune, mais strictement aucune raison de vous inquiéter de votre état nutritionnel. Au contraire, vous êtes dans l'optimum. La personne qui consomme une grande biodiversité de produits végétaux et qui consomme un peu de produits animaux, un peu de viande, un peu de produits laitiers, est dans la sécurité la plus absolue. Il n'y a pas de meilleure façon de se nourrir. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi ces personnes-là, on les culpabilise, on les angoisse en disant « Mais est-ce que je suis bien nourri ?» Non, c'est plutôt, j'allais dire, le consommateur lambda qui met n'importe quoi dans son caddie, et qui mange à la fois beaucoup de produits animaux, beaucoup de produits transformés, qui devrait s'interroger sur son statut nutritionnel. Et la société, j'entends que ça, j'allais dire, transfère les inquiétudes sur les gens qui ont des comportements nutritionnels tout à fait, j'allais dire, parfaits. Donc,
est-ce que dans votre question, il y avait le comment l'estimer soi-même ? Parce que moi, j'avais entendu ça dans votre question, ce qui n'est pas tout à fait votre réponse. Donc, c'est ce qu'on éprouve soi-même quand on...
La définition de la santé, c'est être en forme. Si vous n'êtes pas en forme, effectivement, vous ne pouvez pas dire que ça va très bien. Mais la forme, elle vient aussi de la psychologie, de l'exercice physique. Enfin, elle a une origine.
Merci. Donc, soit sur cette question-là, soit les questions qui vous disent concernaient plus directement les premières.
Alors les deux premières questions. La prise en charge d'une personne qui a un haut risque cardiovasculaire et qui a des comportements alimentaires mauvais, elle nécessite quoi ? Du temps. Alors le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous pratiquez une médecine à l'acte, premièrement, et deuxièmement, s'il n'y aurait pas ce qu'on appellerait éventuellement la délégation de tâches, hein, c'est-à-dire un accès pour des personnes sélectionnées, comme ce monsieur, à la prise en charge diététique par une professionnelle, par une diététicienne, c'est très difficile.
Donc vous touchez là l'un des problèmes de la médecine aujourd'hui. Est-ce qu'on a une médecine libérale à l'acte où vous êtes obligé de voir 15 minutes pour voir, ben, en 15 minutes vous ne verrez jamais, jamais, jamais les mots, vous aurez des mots de bon sens, vous dites, ah, faut pas prendre trop de sel, hein. Puis hein, le beurre, hein, faut pas aller trop dessus, etc. Donc ça c'est gentil, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est convivial. Puis après, le monsieur, il rentre et puis il dit « Oh non, moi, je prends plus de fromage. Hein. Mon docteur m'a dit « Je prends plus de fromage. » Non, c'est parce que c'est tout ce qu'il a eu le temps de dire, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, premièrement, il faut que sur le plan médicamenteux, il soit parfaitement traité, qu'il ait tous les médicaments qu'il faut. Et deuxièmement, un homme comme ça, qui a des habitudes anciennes, un niveau culturel que vous décrivez comme étant, nécessite une attention, une discussion, une approche avec des images, avec du temps. Et c'est ce que beaucoup de médecins rêvent de faire avec les maisons médicales, où il y aura des, ce qu'on appelle la délégation de tâches. Parce que le médecin... chaque fois que j'ai vu un problème de santé, on a dit il faut éduquer les médecins. Comme les médecins, ils sont éduqués, mais on veut les éduquer dans tellement de directions que c'est devenu totalement impossible. Regardez les questions que vous posez. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions et je suis relativement éduqué. Donc, pour la personne dont vous parliez, vous voyez, je ne pense pas que par un dialogue simple avec son médecin, même si c'est gentil, il est probable que ça ne suffira pas. Et même dans ces conditions-là, il y a des conditions psychologiques, il y a des conditions sociales qui font qu'à une certaine époque, il n'est pas capable de modifier son alimentation, son régime. Et la vie se déroule avec, au bout de premier mois, il va dire « Docteur, j'ai perdu un kilo ». Oh, vous dites, formidable, hey, revenez-moi dans 2 mois. Docteur, j'ai perdu 1 kilo. Puis vous ne le revoyez plus pendant 3 mois, il revient, il a 3 kilos de plus. Ben, alors, c'est la vie, ça se passe comme ça, hein. Ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On ne va pas, parce qu'en plus, le problème n'est pas un problème de 1 an ou de 1 mois, c'est un problème vie entière. Comment cet homme de 50 ans ou cette femme de 50-55 ans, son espérance de vie normale, c'est 85 à 90 ans. Donc elle va passer, ou il va passer, toute sa vie comme ça. Et à la fin, successivement, les différents accidents viendront. Et si, par exemple, il y avait un excès de poids, bah oui, il aura mal à la hanche, il faudra un jour, ou mal au genou, et il rajoutera, et puis la bronchite chronique viendra, et ainsi de suite. Et sur un intervalle de temps de 20 ans, 30 ans, c'est comme ça qu'on devient malade. C'est comme ça. Et c'est dur. C'est dur pour le médecin généraliste, c'est dur pour le spécialiste. Les gens ne font pas, et c'est leur droit. C'est aussi leur droit. Pourquoi nous, on avait trouvé que, avec Corvol et de Goulet, on avait regardé pourquoi les hypertendus qu'on traitait, des fois, ils ne revenaient pas nous voir. Et bien, les facteurs de prédiction de leur disparition, c'était l'excès de poids et le tabac. Quand ils fumaient, quand ils avaient un excès de poids, ils disparaissaient. Et pourquoi ils disparaissaient? Ben parce qu'ils en avaient marre. Quand les gens qui ont un excès de poids et qui fument, c'est horriblement difficile de traiter les deux choses à la fois. Et quand vous venez voir le médecin tous les mois qui vous dit toujours la même chose et que vous ne pouvez pas y arriver, ben vous avez le droit de partir. Donc tout ça, c'est vraiment la médecine qui paraît banale, mais c'est la médecine difficile. Alors, pour la DGCCRF et puis la...
Oui, qu'est-ce que c'est là, parce que alors, les abréviations...
Bon, alors, ça vient, c'est le ministère des Finances, hein, la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Il y a autre chose avant, Concurrence, la DGCCRF, parfait. Et la direction générale de l'agriculture et la direction générale de la santé sont, disons, 3 piliers qui travaillent relativement ensemble, puisqu'on a une réunion une fois par mois, mais qui traite essentiellement des problèmes d'urgence. Autrement dit, l'urgence bouffe. Alors après, c'est une compétition fantastique entre les ministres et directions d'administration. Vous m'avez dit, madame, je prends un exemple sans, je ne suis pas sérieux, mais je suis sérieux sans l'être, comme j'essaye de l'être. Mais vous me dites, oh, on a diminué le personnel de la DGCCRF. Ben, on a diminué aussi le personnel de la Direction Générale de la Santé. Vous vous rendez compte, c'est toujours la santé qui paye, alors qu'au ministère des Finances, ils l'ont diminué, mais de 5%, et nous, on nous a diminué de 15%. Et à ce moment-là, mais l'agriculture française, avec la Direction Générale de l'Agriculture, qui historiquement faisait un travail qui concernait des millions d'agriculteurs, et qui continue à faire son travail sur des milliers d'agriculteurs, on n'en diminue pas, éventuellement la taille. Parce qu'en plus, on vous dira à juste titre que c'est devenu tellement compliqué, que non seulement il ne faut pas diminuer la taille, mais qu'il faut augmenter. Donc, le ministre de l'Agriculture va demander une augmentation de son budget, Le ministre de la Santé va demander une augmentation de ce budget et le ministre des Finances dira qu'on ne peut pas faire d'augmentation et que bien au contraire, dans la lettre de cadrage annuelle, on va diminuer de 5% les effectifs parce qu'on n'a plus d'argent. Bon. Alors, au milieu de tout ça, il ne faut pas être trop pessimiste, hein, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on ne dit pas les choses. Ça se passe comme ça. On ne peut pas annoncer d'un côté des complexifications de l'organisation qui correspondent à des complexifications de la société. C'est normal que ça se complique. Simplement, ça se complique peut-être de trop et les méthodes de travail peuvent être changées. Donc, le plan nutrition santé qui est mené par Herzberg et par Badevant est un exemple, comme l'a été le plan Alzheimer, d'une technique d'approche de la santé publique qui est la gestion de plans. Et dans les entreprises, c'est une technique habituelle où vous êtes détaché pendant un certain temps de votre hiérarchie et vous travaillez avec les autres, avec ce problème, bien sûr, de l'harmonisation en cadrant de la voie hiérarchique qui fait votre carrière et la voie du travail qui éventuellement ne fera pas votre carrière. Donc, la gestion d'ensemble des fonctionnaires dans l'analyse que j'en ai faite, et j'en ai fait l'analyse que c'était pas moi, pauvre gars, qui soignait les hypertrophies, je ne pouvais rien faire, on est totalement écrasé par tout ça. Mais c'est ça le problème de l'organisation. Et pour l'organiser, il ne faut pas faire venir des groupes qui viendraient de l'inspection générale il faut des inspecteurs généraux des finances, il faut des inspecteurs il faut de l'IGAS. Mais il faudrait faire venir aussi des gens du privé, parce que pour changer les méthodes de travail, quand vous êtes habitué à une certaine méthode de travail, dans des directions où il y a toutes les professions, parce qu'on a des médecins, on a des vétérinaires, on a des ingénieurs des eaux, on a des pharmaciens, on a des vétérinaires, enfin, c'est une diversité de professions, c'est une diversité de grilles des salaires, c'est une action syndicale normale, permanente, et au milieu de tout ça, l'objectif n'est pas clairement dit et les gens ne sont pas obligés d'aller jusqu'au bout de leur travail. Parce que sans arrêt, quand vous faites une gestion de plan, il faut ramener les gens ensemble. Et les politiques ont cru à un certain moment qu'en annonçant des plans, ils annoncent des plans. Non, il faut les faire, il faut les évaluer. Ça prend combien de temps? Le temps de le construire, ça prend 6 mois, 1 an. Le temps de le faire, ça prend 2 ans à 3 ans. Après, c'est plus les mêmes. Donc, tant qu'on n'aura pas des gens qui diront « mais profondément, il faut changer nos méthodes de travail », on vivra, on vit en empruntant, on vit bien finalement, puis on peut s'en foutre, on dit « mais hey, moi, c'est pas mon problème, les ceux qui viendront après nous verront ». Alors là. Hein, donc, je vous décris pas, entendons-nous bien, hein, parce que j'essaye de vous m'avez posé la question. Je vous décris les choses telles que je les ai vécues avec un œil extérieur. Moi, j'avais travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé à l'université et puis à l'hôpital. Donc, j'ai vu, je n'étais pas haut fonctionnaire. Je regardais les hauts fonctionnaires travailler avec respect parce que ces gens-là m'apprennent des choses. Mais la méthode de travail est fondamentale. Et on ne peut pas continuer à dire qu'on va réduire le nombre des fonctionnaires quand en même temps le Parlement vote des lois qui aboutissent à des décrets d'application. Et il y a un des candidats qui a dit qu'il allait faire quelque chose sur la santé et qu'il allait réduire le nombre des fonctionnaires. En même temps, il a annoncé les deux choses. Mais pour faire quelque chose pour la santé, il recrée une agence qui ferait travailler ensemble les mutuelles et la sécurité sociale. Donc, obligatoirement, il paye ça de 100 à 200 personnes. Donc, comment on peut dire qu'on réduit le nombre des fonctionnaires et qu'on annonce des créations d'agences? C'est pas possible. Alors, moi, je fais pas de politique. Je sais pas comment ça se fait qu'on en est rendu là. Mais je vous jure que quand vous vivez dans le milieu, c'est ce que vous voyez. Et qu'il n'y a pas de moyen de s'exprimer, parce que on vous tuera, hein, c'est pas possible. Enfin, vu par moi, c'était pas possible. Mais votre question, vos deux questions, vous voyez, madame, elles sont très intéressantes parce que c'est l'individu. Qu'est-ce qu'on fait pour un individu? Et qu'est-ce qu'on fait dans l'organisation générale? Et la médecine d'aujourd'hui, c'est un équilibre entre les deux. Entre une action individuelle et une participation à une action globale, où les médecins, de fait, ont un impact éducationnel aussi, c'est vrai. Et de groupe, avec la diététicienne, dans votre cas.
Voilà, il reste 2 minutes, si on respecte les horaires. Donc, peut-être une question, voilà, monsieur, merci.
Tout à fait mineur, qu'est-ce que c'est qu'une calorie vide?
Qu'est-ce que c'est qu'une...
Une calorie vide, un morceau de sucre est tout à fait emblématique d'une calorie vide. Parce que si vous consommez un fruit, vous avez le sucre, vous avez des vitamines, vous avez des fibres, vous avez des acides organiques, vous avez des antioxydants, vous avez du sucre et autour une matrice avec de la complexité, un micronutriment, ainsi de suite. Une calorie vide, on a extrait l'énergie et on a éliminé tout le reste. Les transformations alimentaires, il n'y a pas que le sucre. Il y a les matières grasses purifiées, il y a l'amidon, il y a les dérivés du soja, les dérivés des produits laitiers, ainsi de suite, donc des protéines, des isolats protéiques. Donc, on utilise un très grand nombre d'ingrédients très avantageux pour recomposer des aliments. Et à la fin, ce sont des aliments riches en calories vides, voilà. Et ces calories vides, elles sont absolument pas bonnes pour le fonctionnement de votre organisme. Nous avons besoin d'aliments complexes.
Voilà. Écoutez, je voulais vous remercier en tout cas de vos deux interventions. Il y a plusieurs... je retiendrai une seule chose, puisqu'il est déjà l'heure. C'est qu'à la fois, on a eu des vues extrêmement profondes sur les complexités des systèmes politiques, des systèmes de santé. Et en même temps, on a entendu des convictions fortes sur la responsabilité de chacun pour choisir de s'alimenter autrement. Alors c'est à travers, on peut dire, cette tension-là entre ce que l'individu peut, parfois il ne peut pas, comme on a vu les problèmes d'observance que vous avez très bien décrit, mais une responsabilité de chacun et en même temps la complexité d'un appareil, notamment d'un appareil politique, d'un appareil de santé, lorsqu'il s'agit de faire des politiques de santé publique, lorsqu'il s'agit de décider. Mais en tout cas, oui. Alors, vous avez une conviction.
Juste une réflexion. J'ai l'impression que la complexité scientifico-politique est finalement peut-être devient un obstacle dans la vulgarisation de messages qui peuvent paraître trop simplistes, alors qu'ils sont éminemment réfléchis et porteurs de bénéfices sociaux et environnementaux. Alors, comment faire pour, donner des messages positifs lorsqu'on est confronté à une telle difficulté scientifico-politique, administrative, ainsi de suite.
Merci, je crois que vous en avez donné. Vous y avez répondu quand même à ça.
Oui, moi j'ai ma réponse.
Voilà. Voilà. Donc je pense que nous avons entendu des choses. Et maintenant, à chacun, en bon citoyen, responsable de sa santé et responsable aussi quand même de petites questions de politique de la santé, puisque nous allons voter à un moment donné, je crois, eh bien voilà, à chacun aussi de repartir avec quelques convictions affinées dans le discours. Merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup. Oui, mais vous savez très bien. Vous voyez des trucs simples comme ça. C'était frappant en vous entendant tous les deux. Extrêmement frappant.